RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, voilà, c'est fini, comme disait la chanson, mais là, pas de séparation, on se quitte seulement momentanément. Et oui, rideau sur le tournoi 2024, un de plus qui s'achève et déjà l'heure du bilan pour les Bleus et donc pour les poteaux. Alors deuxième, c'est pas mal deuxième? Ou deuxième, c'est pas premier? Quand on est dans ces fameuses années paires, manque-t-il un petit quelque chose? Ou finalement, dans un moment de transition, après l'énorme mal de casque post-Coupe du Monde, le 15 de France a su peut-être relever la tête. On va revenir sur ce crunch de folie, dans une ambiance de dingue à Lyon, sur cette immense pénalité de la gagne de Thomas Ramos, puis on fera le bilan de ce tournoi, vos coups de cœur, vos déceptions, et enfin le bilan humain, car on a parlé du cœur des hommes cet hiver, mais pour certains, il y a du cœur de vainqueur, pour d'autres, il y a du cœur brisé ou chagriné, on va dire. On vous donnera aussi tout le programme des Bleus pour les mois à venir. En parlant de cœur, un homme qui en a, dans un corps de sportif peut-être, ou ce qui en reste, Denis Charvet, bonjour.
Salut, oui.
Ça va, ouais, Denis, c'était Lyon, t'as aimé Lyon?
Bah, le cœur des hommes, c'est important.
Ouais. T'as aimé Lyon?
C'est essentiel. Lyon, ouais, j'ai aimé, c'est
t'as
sympa. Oui, oui, on a bien mangé. Bien,
t'as vibré?
Bien fait la diététique, c'est parfait.
T'as vibré?
Ah, on a vibré, ouais, les Bleus nous ont fait vibrer, ouais, c'est sympa.
T'as vibré, quel on match. Va y revenir. Et puis on a aussi nos enfants de cœur, Denis, qui sont là. Voilà, pour le jeu de mots, c'est cadeau. Hein, on vous le balance,
avec mon cœur de rocker.
Voilà, le rocker dans le triangle du Sud-Ouest, le rocker palois, la mafia paloise qui est là. Alors je voulais commencer par Bordeaux, mais on va commencer avec la team Trou Bermuda de Sainte-Marie-de-la-Mer. Julien Landry, bonjour.
Salut Wilfried, salut Denis, salut à tous.
Salut
Nico, évidemment, ça va très bien.
Et oui, il se cache, il est là, le représentant de Bordeaux des mocassins à gland, Nicolas Paolorsi.
Salut les gars, salut à tous. Salut, je suis estomaqué par le joli brin de voix de Julien Landry.
T'as vu ça?
Ah ouais,
facile, balade.
Impressionnant.
Ah oui.
On lui demandera peut-être de chanter pour voir un peu la chanson.
J'ai jamais su te dire je t'aime.
Non, allez, on a perdu son auditeur.
En fait, il n'y a que de l'amour. Il y a le cœur des hommes, il n'y a que de l'amour entre nous.
Ouais, c'est ça, c'est beau. De l'amour. Voilà, ça c'est l'équipe pour le bilan. On salue Winnie Claret qui est parti skier quelques jours.
Quel feignasse.
Une petite pause avant qu'il y ait un autre tournoi, Denis, celui des filles dès le week-end prochain.
Hein. Ah oui.
Pour Winnie, ouais. Mais nous on revient sur celui des hommes qui s'est achevé samedi soir en feu d'artifice.
3, 2, 1, France-Angleterre 2024, c'est parti. Thomas Ramos, le départ qui l'a pour Ficou.
Ouais, il
libère,
passé,
Léo
Léo
Nassi, au 49, Léo Barre, le grand, il y a deux contre un. C'est là, il a gardé le ballon, Léo Barre, qui donne peut-être, il va y aller ou pas.
Ouais,
Gens,
c'est pas possible.
Il passe comme il va. C'est Marcus Smith, il est sublime.
Magnifique essai de Smith.
Allez, l'équipe de France,
quel essai de folie, parce que c'est un compte sur les envies à la 60e minute pour cet essai français qui fait repasser les Bleus devant. 70 mètres de la ligne, ça fait 5 temps de jeu là dans la ligne avec
le. C'est bien joué,
il va laisser, ça va être laissé.
Non, c'est pas vrai.
Essai de Tommy Freeman.
Freeman en bout de ligne, c'est bien joué.
Tommy Freeman à la 75e. 78e minute,
c'est
30
légèrement
secondes.
Sur le côté droit.
Et 50 mètres face au poteau, le gars du match.
Allez Thomas.
Le gars du match pour Thomas Ramos, certainement.
C'est fou ce fin de match. Elle est folle ce fin de match.
Il a loupé un coup de pied.
C'est
un
incroyable.
Seul coup de pied sur les 7 tentés aujourd'hui.
Allez, il s'élance.
50 mètres face au poteau. Ce ballon qui part.
Ça part,
il y aura
ça part
la distance.
Bien,
il y aura ce tir.
Oui.
Ça passe pour Thomas Ramos.
C'est pas fini encore.
Ça passe pour les Bleus.
Allez, on dégage en touche.
C'est pas fini. La victoire des Bleus.
C'est fini.
On a gagné.
T'as entendu, Denis? Tu vas dire à Christophe de la fermer maintenant sur les matchs qu'on comprend rien quand il gueule aussi.
Non, mais il faut plus qu'on le prenne, c'est ça.
Non, mais c'est fou ça, hein.
Ouais,
c'est dingue, fou, hein. Ouais. Déjà, toi, je te tolère, alors.
Nous, on forme une équipe.
Trois croqueurs ensemble, évidemment, c'est compliqué.
Non,
quoi.
Mais exagère pas, nous, on forme une équipe, c'est pas pareil.
Ouais, on va essayer.
Non, on va virer Christophe, t'inquiète pas.
On fera un débrief.
Comment on le dit à Monsieur Saadé, au pire, hein, voilà. Allez, victoire 33-31 du 15 de France dans ce crunch. On va commencer donc par revenir sur ce match de folie, messieurs, si vous le voulez bien, avec des temps forts pour les deux équipes. Alors, les Bleus ont mené 16-3, puis entre la fin de première mi-temps, début de deuxième, ils prennent à 21-0. Il y a 24-16 pour les Anglais à ce moment-là. Puis on leur remet un 14-0 avec les essais de Barré et Ficou avant l'essai de Freeman. Comme disait Denis, Tommy Freeman en bout de ligne et la dernière pénalité de Thomas Ramos. Le chaos dans ce match, mais écoutez, on va écouter Fabien Galthié, le sélectionneur, le refus de la défaite.
Et donc, à ce moment-là, on parle de tous les états sur le terrain. Ça devait être, en tout cas nous, en tribune et pour avoir changé avec les joueurs à l'habitant. C'est un moment où l'édifice tremblait, quoi. Et c'est un moment où tu peux te dire, waouh, il faut être sacrément solide pour faire ce que l'équipe a fait, c'est-à-dire que sauter sur les moindres miettes, les moindres occasions qu'on allait pouvoir récupérer, essayer de leur mettre la pression là où on pouvait pour remettre, entre guillemets, j'aime pas l'expression la main sur le ballon, mais reprendre l'avancée, parce que c'est une équipe qui nous faisait reculer en permanence. Vous avez parlé d'état d'esprit, je crois que c'est le mot, quoi. Il faut un esprit ou un collectif, une force de caractère qui soit hyper solide pour pas à ce moment-là lâcher. On peut encore une fois de plus mieux terminer, hein, mais on se paye pas.
Voilà, on remercie le micro de l'amphithéâtre du Parc OL, qui était pas très performant. Denis, après avoir écouté Fabien Galthié, toi, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce qu'il faut retenir le mental des Français sur ce match ?
J'ai envie de dire qu'on a retrouvé l'équipe de France comme on la connaissait, en fait. Pour avoir un peu réfléchi après cette victoire, l'avoir digérée, je trouve qu'ils ont fait preuve d'un état d'esprit incroyable. Et là, il a raison, Fabien. Revenir d'un 21-0 dans un match contre les Anglais, qui sont déterminés, qui sont d'un très bon niveau, tu te demandes où ils sont allés chercher, où ils sont allés puiser cette force, cette ressource morale pour faire la différence en bout de ligne, en bout de compte, au bout du match. Mais c'est assez étonnant. Moi, je suis bluffé par effectivement cette équipe de France qui est redevenue celle qu'on avait aimée, qu'on avait adorée, qui nous avait enthousiasmé. Voilà, tout n'a pas été parfait, on va en parler tout dans ce podcast, mais voilà, je suis bluffé par cette performance. Pour moi, c'est une performance vraiment réelle de l'équipe de France.
On va essayer de vous faire comprendre un peu ce qui s'est passé dans ce match. Julien, les chiffres, les faits marquants de ce match, qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Il y a déjà une constante malgré tout depuis 5 ans, c'est que l'état d'esprit de cette équipe-là, de ne jamais accepter la défaite, le nombre de victoires sous le mandat de Galthié arrachées dans les 5 dernières minutes, c'est quand même assez fou. Si on reprenait les statistiques depuis tous les matchs de Galthié, ils en ont quand même souvent gagné en fin de partie. Et ça, c'est malgré tout un état d'esprit dont il faut louer la force de ce groupe-là, parce qu'on se rappelle malgré tout le quart de finale, ils ont malgré tout la balle pour aller s'imposer, même si ça finit par pas sourire. Mais oui. Après, il y a des changements, et par contre, en termes de jeu. On se rappelle que la victoire la saison dernière en Angleterre, il y avait eu 50 coups de pied de moins de 80 passes. Là, les Français se sont fait 144 passes. Donc, il y a aussi cette volonté, malgré tout, de plus jouer, de plus envoyer du jeu. Il y a évidemment des gros problèmes en plaquage, mais Denis en parlait des problèmes défensifs, on va en reparler. 75% de réussite au plaquage à ce niveau-là.
Alors, c'est très en dessous de ce qu'ils font d'habitude, hein. On est à 90%, ouais, normalement, on est la meilleure défense, hein.
C'est ça, mais à ce niveau-là, c'est impossible de se faire trouer autant. Par contre, la vraie force de ce match-là, c'est la discipline. Seulement 5 pénalités concédées sur l'intégralité du match. Évidemment, c'est très fort. Après, il y a des joueurs qui ont été très impressionnants. On pense à Léo Barré, qui a avancé à chaque fois qu'il a eu la balle en main. Mais oui, on sent dans les statistiques et dans les chiffres que le projet de jeu aussi de l'équipe de France est en train d'évoluer vers un peu plus de possession, un peu plus de volonté de jeu. Alors, les joueurs y vont avec, mais c'est vrai que défensivement, il va falloir par contre régler les problèmes, parce que 75% de plaquage à ce niveau-là, c'est inacceptable.
Oui, des trous en première main, on pense à l'essai de Laurence Denis avant la mi-temps face à Ficou.
Est-ce qu'on parlait des plaquages maintenant ou de la défense maintenant ou après ? Je ne sais pas, mais moi sur la défense...
T'as pas lu le conducteur ?
Non, mais sur la défense, moi je pense que je ne suis pas du tout inquiet, parce que c'est un problème collectif. Et j'ai revu les images, c'est toujours... On dit que ça part d'une faute individuelle. Oui, mais la faute individuelle, elle va avec le collectif. En défense, il faut se parler, il faut avoir des repères, des automatismes. C'est très compliqué au rugby. Et comme ils n'ont pas l'habitude
de jouer... C'est pas l'affaire d'un seul homme, tu veux dire.
Non, pas du tout. Et comme ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble depuis longtemps, c'est l'automatisme. Ils ne viennent pas comme ça.
Pour certains, oui.
Oui, pour certains. Mais Barré, De Porter... Il y a quand même un triangle avec Thomas Ramos qui n'aura jamais joué à l'ouverture. Donc ça fait quand même, entre De Porter, Thomas Ramos et Barré, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc il faut installer les repères, il faut installer les automatismes. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Après, c'est du travail, mais c'est du travail commun qui va permettre de retrouver une très très bonne défense.
Nico, qu'est-ce que tu veux retenir de ce crunch ?
Le caractère des Bleus, ça, le caractère des Bleus. Et puis, ce que disait Julien, j'ai l'impression quand même que le projet de jeu de l'équipe de France est en train d'évoluer. Et bah, déjà, c'est plus agréable pour nous, les supporters, il faut le dire clairement. On a une équipe de France qui maintenant accepte d'avoir le ballon, qui tente des choses, même quand des fois elle est proche de ses 22 mètres. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait vu sur les trois premiers matchs. Donc, ça, c'est ultra plaisant. Et surtout, on a vraiment la sensation qu'on a désormais les profils de joueurs, ou en tout cas que ce projet de jeu a évolué. Ouais. C'est avec ça. La mise en place de certains joueurs, Denis, tu parlais de Deporter, tu parlais de Léo Barré, Nolan Le Garret, qui sont faits voilà pour être épanouis dans ce système de jeu là. Donc ça, je pense que c'est une évolution majeure. À voir si ça se confirme quand il y aura le retour des cadres et que on aura l'effectif à 100% physiquement. Est-ce qu'on va continuer à évoluer dans ce projet de jeu là? Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis oui, c'est vrai que le caractère de cette équipe de France, t'as l'impression quand même que l'ADN des années Galtier, de ce qui a fait notre force entre les deux Coupes du Monde, cet état d'esprit de rien lâcher, il se perpétue. On avait un peu peur de ça quand on avait vu les trois premiers matchs. Et là, malgré tout, avec cette jeunesse, avec cette fraîcheur, tu vois que même les nouveaux, quand même, ils sont habités par ça. Et c'est ultra rassurant.
Samedi soir, ce qui est fou, c'est que même malgré des occasions manquées, hein, t'as l'impression qu'ils peuvent marquer à tout moment, cette équipe. T'as l'impression que le danger, il vient de partout, et c'est ça qui est rassurant, quelque part.
Mais parce qu'enfin, tu joues, Denis, aussi. Tu joues, tu portes la balle.
Non, mais en plus, tu joues, heureusement qu'il faut jouer maintenant avec le talent qu'on a derrière, le talent qui, il demande qu'à jouer, le talent. Mais après, c'est, évidemment, on fera des erreurs, mais on marquera plus d'essais que l'adversaire si on continue comme ça.
Julien l'avait dit, deux fois plus de passes hein, que les Anglais. Je regardais, 10 passes au contact, après contact, pardon, quand les Anglais n'ont fait que 2. C'est sûr que mais bon, on se fait transpercer sur des premières mains aussi, donc c'est pour ça qu'ils restent au contact, en fait, les Anglais, on a l'impression.
C'est une question d'équilibre. Alors pour
c'est ce que disait Galtier la semaine dernière.
Ouais, Galtier, c'est ce que disent souvent les coachs. Quand tu accentues vraiment sur un secteur, tu te dis que quand tu changes de secteur, les joueurs ont tendance à se dire que ce secteur-là, il est acquis et qu'il travaille un petit peu moins. Et du coup, c'est des sortes de vases communicants, quoi. Parce que tu gagnes un peu en attaque, tu le perds un peu en défense. Il faut trouver aujourd'hui ce qui est le meilleur équilibre pour obtenir des résultats. Alors pendant longtemps, ça a été la défense. Et offensivement, on n'était pas trop présent, mais ça permettait de gagner. Et le staff s'est rendu compte que faire que de la défense, ça permettait plus de gagner les matchs. Et qu'il va falloir trouver l'équilibre entre défendre parfaitement ou quasiment parfaitement et mieux attaquer les situations qu'il y a. Comme le disait Denis, aujourd'hui, c'est vrai que quand cette équipe-là attaque, tu as l'impression que ça peut marquer à tous les coups. Il faut juste éviter maintenant, il faut régler ce problème au milieu du terrain, parce qu'on sent que c'est une vraie lacune, parce que beaucoup d'équipes ont ciblé le milieu du terrain de l'équipe de France pendant ce tournoi destination et que forcément, ils y ont vu des failles dans la défense des Français.
Et ça va pas plaire à Sean Edwards et sa physicality, le milieu de terrain comme ça. Et puis, messieurs, cette 79e minute, cette pénalité de la gagne de Thomas Ramos, quasiment 50 mètres à ce moment-là du match. Tension dans le stade, peut-être pas pour tout le monde. Écoutez comment a vécu ça son coéquipier en club, Alexandre Roumat.
Normalement, il aurait fallu que je me mette sur la ligne pour monter et mettre un maximum de pression, parce qu'on ne sait pas ce de quoi est fait l'issue du coup de pied. Mais c'est vrai que j'ai plutôt une grande confiance en lui et j'étais quasiment sûr qu'il allait la mettre. Je me suis un peu mis à l'écart. Heureusement, il l'a mis et on a pu célébrer à la fin tous ensemble. Et c'était très sympa.
Ramos, c'est... grand bonhomme, Denis. Ouais, sur
c'est marrant parce que j'ai eu aucun doute, moi aussi, des tribunes. Je ne sais pas si tu as ressenti, toi, Wilfried. Parce qu'en fait, autant en coin, tu peux toujours avoir de l'imprécision, autant de face, je n'ai jamais vu manquer un but de face de 50 mètres. Jamais, je ne crois pas. Je n'ai pas le souvenir qu'il en ait manqué un. Et je me disais, c'est pour lui, c'est cadeau, quoi. Il va le mettre. Il met ça. Non, mais c'est le boss.
Non, c'est surtout la 79e.
Oui, mais voilà.
L'acide lactique dans les jambes. Quoi.
Il arrive à maturité, je trouve, Thomas. Même si son match n'est pas parfait, l'essentiel, c'est ces mecs sont hors normes. De mettre le but quand il faut le mettre. Voilà, c'est magnifique. Non, pour moi, c'est l'homme qui est fort de cette équipe de France aujourd'hui.
Vous savez ce qui m'a marqué, moi, c'est juste après le coup de pied. C'est, il revient et il fait voir avec son index à gauche, droite.
Il a raison. C'est pas fini.
Après l'euphorie, quoi.
Il sait que c'est pas fini. Il reste encore une minute. Donc on sait jamais. Ils peuvent récupérer les ballons. Les Anglais aller chercher la pénalité de la gagne. Donc oui, c'était encore fragile. Donc, mais c'est vrai que c'est un gagneur. C'est un compétiteur. C'est un mec qui va au bout de tout. Il a la hargne. Il a la rage. C'est vraiment un joueur de rugby totalement complet, quoi. C'est pas, il a tout. C'est un puriste. J'adore ça.
C'est ce que tu disais, Wilfried, quand vous commentiez le match en direct, c'est que c'est un joueur qui est des fois passé à côté dans les très grands moments, Thomas Ramos. Ouais. Et là, ça montre peut-être que cette réussite de la 79e, il a vraiment franchi une étape.
Il a eu des, voilà, pour être précis, hein, des finales top 14 où il était énorme et tout. Et il a eu
ça,
des,
ça sent la version un peu bordelaise. N'oubliez pas mon Jalibert, s'il vous plaît.
Non, je précise.
Ça sent un peu la version. Mais n'oubliez non, pas mon Jalibert quand même.
C'est très bien. Thomas, je ne peux pas l'expliquer. Juste pour, il le sait très bien. C'est les deux dernières demi-finales de Champions Cup face au Leinster où ces matchs ne sont pas aboutis comme les finales de top 14 où là il est énorme, il met tout. Voilà, il y avait eu quelques difficultés dans le placement derrière, il avait coûté une touche à un moment qui avait amené un essai. Puis, mais bon, ces mecs-là, ils sont tellement fous, c'est tellement des chiens dans le bon sens du terme sur le terrain que le bilan au moment de les faire à la fin du match, ils n'ont pas besoin de nous pour leur dire. Mais, et c'est vrai qu'il y a, puis, même l'Afrique du Sud, mais comme l'équipe de France, où ça a été compliqué pour lui. L'Afrique du Sud, il se fait contrer. Il n'a pas été.
Lui, il est surprenant en plus, c'est juste Denis, parce que on n'arrête pas de dire que les joueurs, ils n'ont pas eu de repos. Je me rappelle que Hugo Mola disait Ramos. Il vient taper toutes les semaines à la porte parce qu'il a envie de reprendre avec nous le top 14 et qu'au bout d'un moment, ben, j'ai accepté. Thomas Ramos, il a quasiment pas coupé. Et d'avoir la lucidité encore à la 79e de dire il faut encore le renvoi, tu te dis que tous les joueurs n'ont pas digéré non plus cette Coupe du Monde de la même manière. Et que lui, honnêtement, avec ce qu'il a fait à son dernier, le mondial qu'il a fait, depuis qu'il est revenu à Toulouse, en plus, il arrête pas de jouer en numéro 10. Lui, tu sens c'est un monstre.
Ça
lui, lui il est très, très fort.
À Nicolas, mais j'ai envoyé texto ce matin parce qu'on voulait l'avoir dans le Moscato Show à Thomas.
Oui, il va le voir dimanche soir, Nicolas, donc, c'est ça.
Il m'a répondu et puis il me dit mercredi, je m'entraîne, je reprends ce mercredi pour jouer à Bordeaux dimanche, j'espère. Non, mais le mec, il vient de sortir de France-Angleterre et le mec dit j'espère jouer à Bordeaux.
Il a besoin.
Ah, sa faculté à enchaîner est impressionnante, c'est très fort.
Non, mais il est magique, il est vraiment étonnant.
Alors, c'est surtout un homme qui n'était pas dans les petits papiers avant.
Oui, il y a un an.
Si on veut être franc, Galtier ne calculait pas avant le Japon.
Je vais te dire.
Sans la blessure de Jaminet, il n'est peut-être pas à ce poste-là aujourd'hui.
Il n'était pas dans les petits papiers. Et là, maintenant, s'il couche un nom sur la feuille, bah c'est le sien. Là.
Oui, et puis il a la faculté d'être un immense buteur. Et dans le concert international, je vais te dire, tu peux plus te passer d'un buteur. C'est un buteur hors norme qu'il est. C'est ça, il a quand même l'avantage d'avoir cette faculté de faire des différences.
Même si Nico, tu me disais, on l'a remarqué, dans l'animation, ça n'a pas toujours été parfait.
Notamment en première mi-temps, où pour le coup, on domine et on fait une très très bonne première mi-temps devant. Et il y a 2-3 choix sur des passes au pied, dans des zones un peu de vérité, où on a un décalage, on peut peut-être la porter un peu plus à la main, la pousser sur l'extérieur et il choisit de s'en débarrasser. Après, c'était que son deuxième match titulaire au poste de 10 dans le concert international. face à l'Angleterre.
Mais je ne l'ai pas trouvé.
Il n'a pas fait un mauvais match, mais il a été moins inspiré que face au Pays de Galles. C'était pas la même opposition en face non plus.
Moins inspiré, des choix un peu difficiles, mais en même temps, je n'ai pas trouvé sous pression. Je n'ai pas trouvé un garçon qui était inhibé. J'ai trouvé au contraire, après, oui, les coups de piraté, tout ça, on peut lui reprocher, mais il avait toujours la même envie, la même détermination. Hein, tu ne peux pas lui reprocher
ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr.
Son engagement.
Et puis il fait un 7 sur 8 au pied. Il avait fait un
meilleur réalisateur du tournoi
à Cardiff. Il est à 90% sur le tournoi. Il est à entre 85 et 90 sur sa carrière en équipe de France. Et puis tu le dis, comme l'année dernière, meilleur. Et la France ne fait pas le même tournoi. Ils sont plus en difficulté cette année. Pour la deuxième fois consécutive, il est devant Finn Russell. Il finit meilleur réalisateur. Denis, en plus, ces mecs-là, enfin lui, les chiffres, tout ça, il les connaît. Hein, il fait 84 points l'année dernière. Wilkinson était à 89. Il savait qu'il n'était pas loin du record. Il connaît ses chiffres.
Messieurs, il y a quand même ce qui est fou dans le rugby, c'est que imaginez qu'il n'y a pas la dernière pénalité. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Il a raté la pénalité de la gagne, en fait, juste avant.
Ah, s'il l'avait loupé, tu dis ? Non, celle qui loupe avant, si on n'avait pas eu cette occasion.
Si on n'a pas la dernière occasion, qu'est-ce qu'on aurait dit ?
C'est sûr que l'analyse de son match aurait été peut-être un peu différente.
Sachez, pour la petite info, il est à 337 points en équipe de France. Il a 28 ans. Il est à 99 points du meilleur réalisateur de tous les temps de l'équipe de France, c'est Frédéric Michalak, avec 436 points, donc 99 points.
On peut annoncer qu'il va le dépasser assez rapidement.
En tout cas,
au prochain tour à destination, ça sera au prochain tour à destination. Tournée de novembre et tournée à destination, ça devrait être bon.
Denis l'a dit tout à l'heure, vous êtes OK les gars sur des scénarios comme celui-là, vous avez retrouvé un peu le 15 de France fort des dernières années, Julien ?
En tout cas, on a retrouvé
sur le scénario non, et aller le chercher quoi.
Non, sur le scénario, ça oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que psychologiquement, mentalement, on a pu se poser des questions, savoir ce groupe-là, est-ce qu'il était toujours réactif aux propos de Fabien Galthié sur le début de saison, sur le début du tournoi. Ben là, c'est toujours les meilleures réponses quand les joueurs vont chercher, que tu sens que voilà, il y a une solidarité. Les joueurs en avaient parlé. On se rappelle de Charles Olivon, de Gaël Ficou après certains matchs où ils remerciaient Fabien Galthié de les soutenir. Et tu sens que ce match-là, c'est aussi pour dire, ben voilà, on est tous ensemble, dans le même bateau, on y va. Et en termes d'état d'esprit, oui, il y a ça. Après, en termes de jeu, il y a encore beaucoup à dire. Mais oui, tu sens que il a fallu peut-être la claque de l'Italie pour faire prendre conscience que, après, on en reparlera des choix. Il y aura des choix qui sont contraints aujourd'hui. Le retour de Deporter, de Barré à l'arrière, c'est des choix que n'aurait peut-être pas fait Fabien Galthié sans la blessure de Jalibert, sans le carton rouge de Danti.
Sans le match d'Italie.
Mais, et sans le match d'Italie. Non, mais peut-être qu'en fait, les Français avaient besoin d'un électrochoc, un gros coup de pied au cul pour se dire, bon, ben là, on n'y est plus du tout, va falloir se remettre dedans, parce que l'Italie, c'était quand même un grave, grave accident, oh, même si, non, mais n'oublions pas le tournoi de destination des Italiens, qui est malgré tout ouais, aussi à mettre en perspective. Alors, avec leur performance contre l'équipe de France.
Je pense que j'ai été trop loin dans la question parce que vous savez qu'on a un fil conducteur et que ça, le c'est bilan,
ah bon,
on va en parler et qu'on a une nouveauté. On fait le bilan. Vous allez voir, je vais vous mettre dans les cordes là. On fait le bilan maintenant. Allez, qu'a-t-on pensé de ce tournoi? C'est chouette, hein? Petite virgule comme ça dans l'émission, vous avez vu?
Ah ouais.
C'est pas Christophe Cessieux,
c'est
hein.
Ça, c'est pas Christophe Cessieux, ça. Ça.
Deuxième place.
On t'embrasse, Christophe.
Denis derrière, il va tout lui balancer, ouais. Non, non, deuxième place dans cette édition.
Il vient lui envoyer un message en direct.
Deuxième place, non. Comme en 2020, comme en 21, comme en 23. Il y a le Grand Chelem 2022. Donc voilà pour le palmarès de Fabien Galthié. Qu'avez-vous aimé? Qu'avez-vous pas aimé? Denis, qu'est-ce que t'as aimé dans ce tournoi et qu'est-ce que t'as pas aimé?
Forcément, j'ai aimé la fin. Je ne peux pas dire que j'ai aimé le début. La fin est retrouvée. Non, j'ai aimé le fait que Fabien prenne conscience, alors pas naturellement, mais prenne conscience qu'il fallait essayer enfin les jeunes et essayer enfin de voir s'ils sont au niveau ou pas, mais insuffler de la jeunesse, de l'insouciance, de la folie dans cette équipe de France qui manquait. Voilà. Et donc,
ouais, mais c'est, le problème, Denis, c'est que ce n'est pas spontané, cette volonté d'insuffler du sang frais.
Ouais, peut-être qu'il, oui, mais connaissant Fabien.
Non, mais Denis, dès le premier match, on en a parlé après l'Irlande qu'il fallait apporter du sang frais.
Sûr,
il a voulu mourir. Moi, je lui reprends.
Oui, mais il a voulu mourir avec ses idées.
Couchez.
Je suis d'accord avec toi, mais connaissant très bien Fabien, il aurait pu ne rien changer. Et j'ai même été surpris qu'il change autant de joueurs pour
ouais,
le
mettre Deporter à la place de Moefana, par exemple, voilà. Alors qu'on attendait Moefana après l'expulsion de Danti.
Donc il n'a pas hésité, chapeau à lui. Ce qui est pas bien, c'est ce qui est moins bien, c'est bon, oui, le début de tournoi de Fabien qui était hors sol. Voilà, donc j'aurais aimé qu'il soit plus simple, comme je l'avais demandé, mais il s'est enfermé sur ses certitudes qui l'ont emmené dans le mur, malheureusement. Et voilà, ça, j'ai pas trop aimé parce que j'associe les joueurs, évidemment, mais lui, en tant que sélectionneur, il avait quand même une responsabilité.
On va faire patienter le pitbull de 34 et on va faire parler
le Fox Terrier bordelais. Le Fox Terrier bordelais.
Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé?
Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je trouve qu'on est quand même. Il faut quand même remettre dans le contexte. On sort d'une Coupe du Monde avec une énorme prépa, avec des joueurs qui ont énormément enchaîné. On le reprécise quand même, mais je nous ai trouvé nettement moins dominants devant. Et ça, je pense que c'est assez inquiétant, que ce soit dans certains secteurs, la mêlée fermée, en touche, beaucoup moins précis. On a eu du mal à gagner nos collisions devant, et dès qu'on a insufflé un petit peu de fraîcheur avec des joueurs différents, bah ça nous a permis de nous remettre dans l'avancée et derrière d'avoir des ballons à jouer derrière. Donc notre conquête, je l'ai trouvée moyenne sur ce tournoi des destinations. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment aimé, même si on a redressé la barre un peu. Après voilà, la communication de Fabien Galthié aussi en début de tournoi où vous l'avez dit, c'était totalement hors sol, on comprenait pas ses choix et surtout on n'avait aucune explication à ses choix, donc ça lui donne raison finalement à la fin, mais c'était assez lunaire de voir tout ça. Par contre, j'ai aimé cette fraîcheur, j'ai aimé voir aussi le vivier de joueurs qu'on avait à disposition et qui va nous permettre très probablement d'avoir un effectif ultra concurrentiel pour les prochaines échéances. Et puis il y a des joueurs qui explosent, Nolan Le Garec notamment, donc voilà. Mais après j'imagine qu'on rentrera après dans le détail joueur par joueur, mais voilà un petit peu.
Il y aura une autre virgule.
Voilà, y a rien.
Ouais, voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a lu le conducteur, c'est bien, ça fait plaisir, ça.
Tu sais quoi, t'es conducteur, tu sais ce que t'en fais.
Mais je te l'ai envoyé par mail, mais tu
veux pas. J'en veux pas, je lis pas les conducteurs.
Ah, tu veux rester spontané, toi,
tu
veux. C'est le barbarian, c'est le barbarian qui parle.
Est-ce que tu crois que je lis les conducteurs de ces cieux? Qui me fout des
Qui me fout il n'en fait pas.
Dix pages, pour se rassurer.
On l'embrasse à Christophe. Julien, qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé?
Non, j'ai aimé la force de caractère de ce groupe-là, qui aurait pu lâcher contre, non pas la tempête qui se déclenchait, mais les nombreuses critiques qui ont pu s'abattre sur cette équipe de France. Donc voilà, j'ai aimé la force de caractère de ce groupe-là, symbolisée évidemment par la victoire en Angleterre, par même si elle est miraculeuse et pas forcément logique, cette volonté de ne pas céder sur sa ligne contre les Écossais à la dernière minute, alors que évidemment là aussi les vents étaient plutôt contraires. Alors évidemment, en fonction de la question de l'arbitre, on n'aurait pas la même chose aujourd'hui, mais voilà, j'ai aimé la force de ce caractère de ce groupe-là. J'ai aimé évidemment la fraîcheur qu'ont apporté les jeunes à la fin, les deux porteurs, tout ça. J'ai aimé la nouvelle patte de Arletaz, de Sampere. On sent qu'ils ont besoin aussi, même si Nico a parlé de la conquête qui est difficile. On sent que Arletaz lui essaye de mettre sa touche. J'ai pas aimé évidemment le manque de renouvellement sur ce tournoi-là. Je comprends pas. Par exemple, moi, je suis à la place d'Emilien Gailleton. Je me dis, il attend quoi, le staff de l'équipe de France aujourd'hui pour moi? J'ai fait des allers-retours. Mmh. Il a passé son tournoi à faire des allers-retours. Mmh. Il a passé sa préparation à la Coupe du Monde à faire des allers-retours. Alors qu'aujourd'hui, Nicolas Deporter lui soit passé devant. Je le comprends, mais je pense que pour Emilien Gailleton, c'est difficile aujourd'hui. Voilà, j'ai pas aimé que Fabien Galthié s'enferme, qu'il réponde pas aux questions. J'ai détesté les confs de Fabien Galthié après l'Écosse où c'est notre meilleure performance. C'est oui, mais c'est manquer de respect
aux
suiveurs.
Oui, c'est vrai. Non, parce que moi je l'ai aussi. On peut même à nous. C'est vrai que la com. Mais il a changé parce que j'ai aimé ça aussi parce qu'il a changé. Alors on avait Florian Grill, le président de l'FFR, chez Marion Bartoli dimanche soir, qui nous a dit qu'il avait parlé de la com pendant une heure avec Fabien Galthié à ce moment-là. Donc je pense que peut-être que quelqu'un lui a dit. Et il a changé quand même. Il a changé, hein. Parce que Denis, on l'a vu après. Donc, non, mais j'ai expliqué pourquoi il avait dit ça. Oui, vas-y.
Et non, et pour finir, j'aime surtout pas qu'on se soit entêté avec certains joueurs qui avaient, je pense, besoin de repos. Alors, on va me donner tort sur Gaël Ficou qui finit en boulet de canon sur ton destination. Qui finit très bien et qu'on pensait que lui aussi avait besoin de repos. Mais voilà, je pense que on aurait pu laisser un Tao sur le repos. On aurait pu laisser peut-être Danti directement au repos aussi. Mais non pas leur dire que l'équipe de France, elle était finie pour eux, mais leur dire que ce tournoi-là servait de transition avec les jeunes qui étaient champions du monde, qui sortaient d'une grasse préparation. Mais voilà, il y a ce délire de l'équipe premium, l'équipe en développement qu'on va envoyer cet été en Argentine. Je pense que ça méritait plus de sang frais. Puis comme on dit, ouais, c'est pas un cadeau d'envoyer Léo Barra au Pays de Galles. On avait fait le podcast avec Denis. Denis, il a été lancé pour sa première sélection au Pays de Galles. Ouais, quand t'es un grand joueur, et ces joueurs-là, je disais, aujourd'hui, ils sont formatés. Pour être lancé dans le grand bain à 20 ans, à 19 ans. Et les mecs, ils éclaboussent tous les week-ends, donc tu les lances.
Exactement. Et puis, j'ai croisé Alexandre Rouma le lendemain quand je suis rentré à Paris. Et je lui disais, est-ce que ça a été dur contre les Anglais? Il me dit, tu sais, non, parce qu'en fait, tous ces gars-là, on les joue en Coupe d'Europe, tout le temps. Et en fait, on s'est habitué à les jouer. Ça fait que, quelque part, psychologiquement, on les craint moins, quoi. Tu vois, dans l'approche, je trouvais ça intéressant ce qu'il me disait. Et j'avais pas pris conscience du fait que la Coupe d'Europe, maintenant, a mené une soupape par rapport à la pression au top 14.
Un warm-up.
Voilà, ouais. Donc c'est intéressant. Et pour parler de Gaël Ficou, je pense quand même que c'est pas le bon exemple, Julien, dans la mesure où c'est un grand champion. Et que lui,
De Gaël, il n'est pas forcément très bon.
Mais il avait besoin de.
C'était pas lui rendre service, peut-être que tu voulais dire, Julien,
À l'arrivée, Fabien a eu raison parce qu'on l'a piqué, il a été piqué. Et en début de. Avant le Pays de Galles, il y a eu 3 jours d'émulation. Tout le monde l'a confronté, c'était au meilleur la guirlande, et bien il a été formidable derrière. Donc je pense que c'est autre chose encore. Gaël, il a besoin qu'on le bouge.
Non, je leur disais juste d'avoir peut-être un peu de repos en disant à Gaël, ce tournoi là on compte toujours sur toi, tu fais toujours partie des cadres, mais ce tournoi là souffle.
La vérité, c'est que lui, il a pas envie.
Bon, Moi, j'ai aimé le mental de cette équipe quand même, parce que il a fallu être costaud. Ça a tangué, ils nous l'ont dit samedi soir, hein, entre les lignes, on comprenait que ça a tangué hein, pendant plusieurs semaines, que ça a été dur, que les critiques, la pression, évidemment l'apport des nouveaux. Franchement, la fraîcheur des mecs que vous avez cités, et c'est vrai que le Garek a été d'une fraîcheur. Mais à la fois, j'ai aimé Maxime Lucu. J'ai aimé un Maxime Lucu qui a marqué un essai à Cardiff, qu'on a eu en réaction après à Cardiff. Franchement, chapeau Maxime Lucu, parce que ça a été dur. Dupont est pas là. Maxime Lucu, l'équipe recule. Il fait pas des bons matchs, mais derrière un pack qui recule ou une équipe dans la difficulté, c'est pas évident. Et il est venu nous en parler, le bien que ça lui avait fait de marquer à Cardiff, et d'une lucidité toujours Maxime Lucu quand il vient nous parler. Donc voilà, j'ai pas aimé la com de Galtier comme vous, parce que des fois. Il se foutait de nous, il répondait à côté. Et je me demande même après quand il me disait ça va, je vous ai bien répondu, s'il se foutait pas encore plus de moi quand je lui posais certaines questions après. Bon, ça c'est Fabien, il est comme ça. Mais il a quand même changé. Alors est-ce qu'il était obligé? Est-ce que c'est de lui-même? Voilà, il a quand même changé. Voilà. Et l'adaptation quand même de tout le monde aussi, messieurs, je trouve que dans la méthode du staff, dans la composition d'équipe, ils sont quand même, ils ont pas été obtus. Là, vous avez, certains me diront, ils sont obligés. Mais
ils ont été un peu obligés, c'est vrai ce que disait Julien.
Ils ont été un peu obligés. Et enfin, pour finir, ça c'est le petit sourire, le petit bonbon, j'ai aimé. Itoje sur Emmanuel Meafou samedi soir, c'était juste pour le bonbon de voir Itoje aller sur ses fesses en prenant Meafou un peu haut.
Il n'y a pas que Itoje. Comment il s'appelle? Underhill.
Et pour finir, j'ai pas aimé l'Irlande, j'ai jamais vu cette équipe comme ça en fait, tout le monde à Galtier. Jamais vu cette équipe. Je sais pas si vous en souvenez, non, tellement dépassé. Est-ce qu'il y a un autre match où on a été autant dépassé depuis une défaillance collective comme ça?
L'année dernière, oui. En Irlande.
Là-bas, ouais, je sais pas, c'est encore.
Cette fois dans l'embute, ils sont allés 8 fois.
Oui.
Là, en match international, c'est beaucoup.
Peut-être que ça venait de l'Afrique du Sud.
T'es passé à côté de la catastrophe l'année dernière. Souviens-toi, tu tiens le match, tu tiens le score.
Oui, mais t'avais. Oui, tu marquais.
C'est un petit miracle. Non, c'est un petit miracle. Pour moi.
Bon, j'ai pas aimé le déni, mais ils étaient peut-être obligés de le déni de l'Afrique du Sud aussi. Ils ont mis longtemps avant de dire. Alors, c'est facile à dire de notre côté.
J'ai une réponse que j'ai eue par Thomas Ramos ce matin. Ouais. Et en fait, ce qui n'a pas été facile, c'est qu'on nous a parlé que de l'Afrique du Sud pendant la première semaine. Et donc, déjà qu'ils avaient du mal à digérer le quart de finale, ça veut qu'ils ont continué à le porter comme une croix pour le premier match. Donc,
est-ce que la presse a été trop dure, Denis? Est-ce qu'on a oublié que ces gens-là avaient eu un énorme traumatisme?
Moi, on a été
cramé, comme dit Julien. Est-ce qu'on a été trop dur dans l'analyse?
Mais bien sûr, mais pas du tout. Non, mais ça aurait été plus simple que est-ce qu'un joueur peut faire un aveu comme ça? Je ne le crois pas. Moi, j'étais en équipe de France. Même si tu passes à côté, tu ne peux pas dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas dans la tête, que tu n'es pas là.
Non, mais c'est pas les joueurs qui sont fautifs, Denis. Les joueurs qui sont fautifs. Le principal fautif, c'est Fabien Galtier.
C'est de ne pas avoir fait un état des lieux de la défaite et dire aux joueurs qu'on s'est peut-être planté nous aussi.
Non, mais du coup, les joueurs, ils peuvent pas assumer les joueurs.
Excusez-moi, je me suis assez pris dans la gueule pour savoir.
Oui, non, mais je veux dire, Denis, les joueurs ne peuvent pas assumer quelque chose que le staff n'assume pas lui-même, en fait. Tu vois, c'est dur de demander aux joueurs d'assumer, la responsabilité de l'échec, alors que Fabien Galtier ne cesse pendant toutes les interviews, c'était pareil, je referais exactement pareil, on s'est pas trompé sur la stratégie, on a été cette fois dans l'embute, tout ce match est parfait, on le joue 10 fois, on le gagne 9 fois. Ben, quand tu tiens à ce discours-là, les joueurs, ils peuvent pas derrière te dire, effectivement, nous, on s'est planté, il fallait faire autrement. Le principal fautif, c'est le staff de ne pas avoir fait un état des lieux de cette défaite-là.
Écoutez ce que pense Fabien Galtier de ce tournoi, le bilan qu'il en tire, le synthétisé. C'était samedi soir après le match à Lyon.
L'équipe, en tout cas, elle s'est battue. Parfois, c'était complexe. On a commencé le tournoi à 14, donc c'était pas la bonne idée, quoi. Faire un tournoi à 15 face à des équipes à 15, c'est mieux. Avec cela, l'équipe, elle a continué à être résiliente, à être solide. Sur certains points, pas surtout, bien sûr. Après le match de nul face à l'Italie, il nous restait ces deux matchs en 6 jours. Et on s'était donné un challenge. Ces deux matchs, ils sont pour nous, quoi. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Les joueurs se sont levés, ils ont dit oui, ils seront pour nous. On a beaucoup appris sur nous. Beaucoup appris aussi de nous.
On a beaucoup appris de nous, sur nous et de nous. Est-ce un bon tournoi, Denis?
C'est dur comme question parce que. Non, mais nous on reste sur les dernières images. Le problème, il est là, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre un peu plus de recul que ce que dans le temps. Je peux pas dire que c'est un bon tournoi. peut pas le dire. Tant on est passé à côté les trois premiers matchs. Donc tu peux pas être satisfait d'un tournoi. Un tournoi, c'est 5 matchs. Donc voilà. Si tu fais le bilan de 5 matchs, tu peux pas dire que c'est un bon tournoi. C'est un tournoi qui s'est bien fini, heureusement, et qui a redonné espoir à Fabien Galthié, à ses joueurs et à son staff. Pour voir de nouveaux horizons et de belles choses à l'horizon.
Est-ce qu'on n'était pas obligé de repasser par là justement après tout ce qui
si, après en fait moi la question que je me pose c'est avant ce tournoi quel objectif on avait pour cette équipe de France.
On parlait de Grand Chelem, même Fabien en parlait. Hein.
Ouais, mais alors c'est peut-être là où l'objectif il était un peu trop élevé. Après une préparation extrêmement difficile, après une élimination extrêmement difficile, avec des joueurs qui coupent 2 semaines et qui reprennent derrière et qui sont bouillis, c'est là où moi je pense que l'objectif de départ était trop élevé. Au final, alors oui, il y a des choses qui sont mal passées. Oui, moi je pense que le staff a été obligé de faire des changements et que s'il n'y avait pas eu, comme le disait Julien, la blessure de Jalibert, le carton rouge de Danti, tu aurais peut-être eu un peu moins de turnover. Mais au final, moi je trouve que ce tournoi il est positif parce que tout simplement on a vu de nouveaux joueurs et de nouveaux joueurs.
Mais attention, réussi que positif. Est-ce que pour toi il est réussi? La question c'est celle-là. Parce que tu me dis c'est positif, moi je te répondrai oui.
Je te dis qu'il
ouais,
est pas.
C'est différent. C'est plus positif que c'est réussi.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas la même chose. C'est plus positif au final quand tu ressors de ce tournoi parce que
c'est pas un échec.
Quand
tu penses
à l'avenir, voilà, c'est pas un échec, mais il est pas réussi parce que dans le contenu, voilà, t'as quand même un énorme chantier encore.
Bon, donc c'est ce qu'on disait, peut-être que le staff et les joueurs se sont adaptés, qu'ils ont changé leur méthode. Écoutez l'avis de l'excellent François Cross.
La remise en question de tout le monde. On ne s'est pas reconnu sur le premier match. On se devait de réagir. On a été touché dans notre orgueil, dans notre ego, et on s'est servi de ça pour aller de l'avant, encaisser les erreurs que chacun avait commis, de regarder vers l'avant. Donc voilà, ça nous a souri en fin de tournoi, mais il faudra surtout que ça nous serve pour ne pas reproduire cette faillite en début de tournoi.
Denis, elle se situe où cette équipe de France, entre le nul avec un contenu proche du zéro face à l'Italie et celle qui a le mental pour renverser les Anglais et donner tant d'émotions? Tu le places où, le curseur?
Mais moi je pense que
on a toujours ce même potentiel des 4 ans qui nous faisait penser qu'on en pouvait être champion du monde.
Oui, je pense qu'on va avoir une très grande équipe de France. Je pense que l'arrivée de Meafou était énorme, était un bonus qu'on s'attendait pas aussi fort. Je pense que lui il va chambouler. Il n'y a que 2 sélections et déjà on voit le potentiel. Non, mais je veux dire que lui c'est peut-être l'oiseau rare qu'il nous fallait. Je pense que lui il va changer beaucoup de choses. Et donc, n'oubliez pas qu'on va récupérer Antoine Dupont et Ntamack, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on va récupérer quand même une charnière mondiale, peut-être la meilleure au monde. Je sais pas.
Qu'on l'avait pas aussi.
Et qu'on n'avait pas. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir dans cette équipe de France avec les jeunes qui vont arriver, qui arrivent déjà. Le réservoir avec le Tulagi ou le petit de Bordeaux là, comment il s'appelle, un nom italien là.
Gazzotti.
Gazzotti qui moi je pense va intégrer bientôt. Nouchi qui va faire la tournée aussi, dont Bernard Laporte me dit qu'il c'est un extraterrestre. Il y a un tel potentiel derrière que j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Je pense sincèrement que nous, le constat majeur, c'est qu'on n'a pas fait le deuil de la Coupe du Monde, que les joueurs étaient cramés mentalement et que personne ne l'a vu. Fabien ne l'a pas vu. Fabien n'a pas préparé parce qu'il n'a pas fait le débriefing qu'il fallait faire et qu'on s'est enlisé. On a cru que ça allait rebondir et puis ça s'est jamais rebondi.
Allez, on passe au bilan individuel. Qui a marqué des points? Qui en a perdu? Tour d'horizon. Ça a de la gueule quand même, ça. Hein. Alors là, il faut qu'on soit.
Non, une fois c'était bien, deuxième fois c'est un peu ridicule.
Là, c'est trop.
Fais gaffe parce que je le fais 10 fois de suite. Je demande de faire 10 fois de suite si tu m'embêtes. Il faut qu'on soit aidé par un expert, messieurs. Nicolas Paolo aussi, qui va nous donner. Par joueur, les temps de jeu, le nombre de plaquages, le ruck, les passes, le nombre de coups de pied. Non? Non,
j'ai pas du tout prévu ça, moi.
Non, plus sérieusement, entre la prépa et le premier match de l'Irlande et la victoire à la fin contre l'Angleterre, il s'en est passé des choses. Les faits marquants, Nico, pour les joueurs.
Je vais vous donner tout simplement les joueurs qui, à notre sens, ont marqué des points à la rédac. Mm-hmm. Bien évidemment, la nouvelle génération. Nolan Le Garec en tête, Denis. Dont on se dit même que s'il continue à ce niveau-là, il peut venir peut-être un petit titiller Antoine Dupont. En fonction du retour de. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas comment Dupont va revenir de son épisode à 7.
Il est très fort, mais il y a le Martien quoi, au-dessus. Donc c'est.
Mais là tu t'es armé avec une paire de numéro 9 quand même pour l'avenir.
On n'était pas embêté avec les 9 ces dernières années.
On est quand même obligé de dire qu'il a joué derrière un pack qui était dominant. Hein.
Oui, à Cardiff.
Tu es quand même obligé de dire que dans un contexte favorable, mais bon.
Tu penses à Lucu, tu veux dire ?
Eh ben oui, Lucu qui a quand même subi les trois premiers matchs. C'était pas évident pour lui. Hein.
Oui, mais Lucu est aussi plus gestionnaire qu'animateur.
C'est pas le même profil.
Oui. Là, le Garek est plus proche du profil d'Antoine Dupont. Non, on a deux neufs qui se ressemblent. Non, mais Lucu est un très bon joueur de complément sur le banc pour gérer des fins de match. Mais tu trouves avec le Garek un profil très proche de Dupont aujourd'hui.
Donc c'est Nolan Le Garek qui est la probable grosse explosion de ce tournoi destination côté français, Léo Barré qui est une vraie solution au poste de 15 après avoir avec le retour de blessure d'Entamac, de Jalibert s'il va continuer à pouvoir postuler une place de titulaire avec Thomas Ramos. On a trouvé un pilier droit remplaçant quand même qui apporte une densité physique qu'on n'avait peut-être pas avant avec Dorian Aldeguerri.
GH.
Ouais, Georges-Henri Colombe, le Rochelet, Nicolas Deporter, même si on pouvait peut-être s'attendre à mieux, le Bordelais apporte quand même une fraîcheur et surtout un profil de centre qu'on n'a pas. Je vous rappelle qu'en club, il joue numéro 13, là il a porté le 12, même s'il alternait avec Gaël Ficou, donc il faut peut-être qu'il s'habitue aussi à son nouveau rôle en équipe de France, mais c'est un joueur qui
a rien à voir avec Danty, oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai, c'est un passeur, c'est pas le profil de Danty. Ouais.
C'est quelqu'un qui va beaucoup plus sur les extérieurs, qui porte moins le ballon que Jonathan Danty, mais qui amène des choses différentes dans le profil. On rajoute Pozzolo Tulagi, qu'on a moins vu, puisqu'il n'était pas là, contre les Anglais, contre les Gallois, mais qui a été le meilleur joueur face à l'Italie, et qui est quand même un vrai crack. Et quand on imagine Denis Meafou, voire Tulagi rentrer en cours de match, on se dit quand même que
on dit ça sur le bassin d'Arcachon, Tulagi.
Moi, je dis Tulagi. Déjà, je disais Tulagi, maintenant j'ai Tulagi, je le dis bien.
Alors, Tu vas dire Tulagi, Denis.
C'est vrai que je n'osais rien dire avec Tulagi, mais bon.
Non,
c'est
mais
vrai,
faut arrêter de me poser des problèmes. Hein.
Ah, c'est son premier podcast, hein, Nico. Donc,
je l'ai un peu francisé, le nom de famille. Bon. Tulagi, en tout cas, on se dit qu'au relais de Meafou, ça va être énorme. Et puis, on en parlait, mais François Kroos, qui est toujours très très bon, qui a toujours été très très bon et qui l'a fait.
Alors, franchement, c'est pas celui dont on parle le plus, Nico, t'as raison, ça me fait plaisir parce qu'il est. Il est stratosphérique, quoi, sur ce tournoi.
C'est marrant parce que c'est un homme de l'ombre. C'est terrible parce que on ne sait pas d'où ça vient, mais alors qu'il fait des matchs énormes.
Mais parce qu'il a la tête dans les rocs et pas en bout d'aile, en fait.
Oui, mais
c'est le premier arrivé sur les rocs, sur les déblayages dans ce tournoi.
Oui, mais regarde, Jelonche, il a le même profil. Hein, c'est le même profil.
Sauf que j'ai l'impression qu'on avait déjà dit que François Kroos, il était indéboulonnable, je me rappelle, après la victoire en Nouvelle-Zélande la saison dernière. Où on avait dit François Kroos, on ne pourra jamais l'enlever. Ouais. Et puis finalement, quand tu avais Jelonche, Olivon et Aldrit, c'est le premier qui sautait, c'était François Kroos.
Est-ce qu'il n'est pas manqué en quart de finale?
Non, mais après, je dis pas qu'on a donné raison, mais j'ai l'impression que François Kroos, à chaque fois qu'il joue en équipe de France, il répond plus
il
que
fait
présent.
Le boulot que d'autres font pas.
Et que parfois, on a tendance peut-être à le sacrifier, lui, peut-être plus facilement que d'autres, alors que vu tout ce qu'il apporte, c'est parfois des choix difficiles.
Non, mais surtout, c'est un vrai joueur de rugby. En fait, non seulement il fait les tâches de l'ombre, mais en plus, il pue le rugby, ce mec. Il est partout, il est là où est le ballon, il colle au ballon, il y a toujours le
avec
geste.
Avec et sans ballon, il est partout.
Il a toujours le geste juste, quoi. C'est la vision du jeu, il a tout pour lui.
Non, c'est il a du bulbe. Hein.
Il devrait être davantage récompensé, c'est certain, mais il ne l'est pas. Ouais. Comme ça me dit, il aurait pu être l'homme du match.
Mais bien sûr.
Ça aurait été logique et on a préféré quelqu'un d'autre.
Et dans ceux qui ont marqué des points, je termine avec Thomas Ramos, bien évidemment, dont on a parlé, mais qui a monté.
Mathieu Jalibert. Ah non, pardon.
Oh là, ça c'est pas bien ça, Julien, en plus, parce que c'est un jeu avec Nicolas Paul Orsi.
Et puis non, mais quand même, les gars, dans ceux qui ont marqué des points, on va rajouter Gaël Ficou. Rajouter Gaël Ficou. Au bout de trois matchs, on pensait qu'il était cramé, Gaël Ficou, que c'était terminé, bouilli. Et puis en fait, on se rend compte qu'il est largement capable de faire la transition avec la jeune génération et d'apporter. Donc voilà, dans ceux qui ont perdu des points, on peut se demander si on reverra peut-être Jonathan Danty avec le maillot bleu.
Bah oui, bien sûr que oui.
Paul Willemse. Cameron Wauquiez est sorti des radars. Là, on peut se poser de vraies questions. Et puis la charnière bordelaise, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, même si je les défends vraiment parce qu'ils ont été dans des contextes vraiment difficiles, avec un pack qui avançait pas, force est de constater qu'il y a des joueurs qui leur sont passés devant. Alors Jalibert, c'est différent par rapport à Maxime Lucu, mais bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas gagné des points sur ce tournoi destination.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que Jalibert devra à nouveau prouver Et on a l'impression que c'est toujours ça Denis pour lui.
Oui, mais
qu'à chaque fois qu'il n'arrive pas à acquérir un statut béton en équipe de France, mais, et qu'il faut qu'il y a un moment un tout petit point d'interrogation sur lui, parce que je rappelle c'était dans des matchs difficiles pour lui, mais qu'il a fait des fautes de main sur les chandelles où on a reproché sa défense et qui doit, où c'est l'histoire de sa carrière qui doit.
C'est un peu comme François Kroos, Mathieu Jalibert, hein, c'est un peu le François Kroos des trois quarts, hein, t'as l'impression qu'à chaque fois il doit revenir en équipe de France, faire un éclair de génie pour qu'on se dise ouais il a du talent ce joueur quand même, il peut peut-être aller chatouiller Romain Tamac, voilà, c'est un peu ça.
Mais le constat, il y a un constat quand même qui était obligé de faire, c'est qu'il a pas été à la hauteur pendant le tournoi. Les matchs qu'il a disputés, il ne s'est pas imposé, tout simplement. Il a fait de bonnes choses. On a vu percer, je crois que c'était contre l'Irlande ou je ne sais plus quel match où il avait fait de bonnes choses, mais il ne va pas au bout. Il ne va pas au bout d'un match abouti où on pourrait dire ben, lui, c'est le taulier. Quoi. Voilà. C'est un peu ça qu'on lui reproche. Et il a raison. Donc,
mais après, quand on pack n'avance pas du tout, c'est quand même compliqué d'être dans bonne disposition pour prendre des intervalles.
Non, mais après, le rugby,
c'est ça. L'équipe de France, surtout Denis.
Oui, mais après, c'est un problème de contexte.
Surtout l'équipe de France. C'est là au bon moment, au bon endroit pour certains. Quand on voit Alexandre Oumat, qui n'était pas du tout sélectionné, qui est pris pour l'Écosse, Denis, et qui fait partie du groupe gagnant, c'est
dans le bon wagon ou le mauvais. C'est malheureux à dire, mais c'est aussi dur, l'histoire d'une équipe de France où parfois ben, tu pâtis d'un manque de pas de bonne génération, mais de manque du fait de dominer ton sujet. Moi, je suis rentré dans des contextes défavorables, parfois favorables. Voilà, c'est le parcours d'une carrière en même temps. J'ai envie
c'est
de te
pour Cameron Hockey peut-être que c'est plus inquiétant, hein, les gars.
Oui, peut-être. Pensez, mais... Sûrement, parce que là, quand on voit en seconde ligne, le nombre de seconde ligne, ça va être compliqué pour lui de s'imposer en seconde ligne. Il n'aura plus que la troisième ligne, c'est son poste de prédilection. Pourquoi pas revenir fort en troisième ligne, on verra, hein, je ne sais pas.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de manque en troisième ligne.
Le joueur quand même qui nous a tous étonné, c'est Méafou. C'est le seul. Non, mais c'est quand même.
C'est un monstre.
On l'attendait, il a confirmé.
C'est pas une surprise. Après, vous allez me dire, il joue 50 minutes. Quand il joue presque 80 minutes en club, et il faisait des matchs de presque 80 minutes au Stade Toulousain. Là, c'est vrai qu'il joue 50 minutes parce qu'on se disait, Julien, tu dis c'est pas une surprise, mais voilà, là c'est le très très haut niveau en termes physiques.
Oui, mais à partir du moment où tu le fais jouer 50 minutes, je veux dire, il faisait déjà des grands matchs en Coupe d'Europe, qui est déjà le gap au-dessus du top 14.
Oui, presque 80 minutes en plus. Hein.
Ouais, donc tu te disais quand toi sur un match de niveau international, il peut jouer 50-55 minutes avec cette capacité qu'ont les joueurs à faire les staff à faire du coaching. Je veux dire. C'est pas une surprise de voir Emmanuel Méafou là et performer. On l'attend tous, on espérait même qu'il soit là pour le mondial, nous l'oublions pas. Donc je pense que Méafou a aujourd'hui répondu évidemment.
Il t'a fait plaisir un peu sur quelques percussions.
Oui, mais évidemment, mais après tu te dis quand même que tu peux aligner un axe droit Antonio Méafou et mettre sur le banc Colombe Tulagi. 80 minutes avec 300 kilos quasiment sur le terrain, c'est quand même épais pour les adversaires. Donc évidemment, j'ai pas envie d'oublier Possolo Tulagi moi sur ce tournoi-là.
C'est vrai dans le bilan.
Dans le bilan des joueurs positifs parce que appelé au pied levé la veille de l'Irlande où il était pas prévu et finalement tu le mets remplaçant où il est censé apprendre tout. Il rentre, il fait une très bonne entrée, il est excellent en Écosse, très bon contre
parfait.
Les Italiens.
C'est parfait. Julien,
Oui. Mais c'est vrai qu'après j'ai tendance après c'est normal, il est jeune, ils lui ont dit si tu t'en vas tu vas avec les Anglais. Voilà, j'ai pas envie d'oublier Tulagi. Je pense que du coup Paul Villemcé a fait une croix définitive sur l'équipe de France parce que dans ce profil là maintenant où t'as deux gros porteurs. T'as deux gros porteurs, Paul Villemcé ce carton rouge évidemment, Fabien Galthié même si
c'est
pas Paul Villemcé,
ça peut aller vite aussi avec
le... mais une sorte d'occasion de
mais quand Fabien Galthié dit comment c'est le tournoi à 14 même si il pointe pas du doigt Villemcé, il lui reproche malgré tout ce carton rouge, donc tu te dis que Villemcé ça va être dur. Moi j'ai beaucoup aimé
qui aurait cru que Villemcé serait de ce tournoi déjà, Julien, c'est après vrai, la c'est Coupe vrai. Du Monde.
Donc il n'aurait pas dû y être si
Léo Barré, oui, Léo Barré il est frais.
Non, j'ai beaucoup aimé Léo Barré aussi à l'arrière, cette capacité
qu'il a
à prendre les cannes, mais ça va peut-être aussi redistribuer un peu les cartes. Mais c'est vrai que peut-être que Mathieu Jalibert a perdu beaucoup, parce qu'on se rappelle que Léo Barré est capable aussi de jouer à l'ouverture, qu'il est capable de jouer à l'arrière, et dans cette volonté de faire des bancs en 6-2, si tu mets Léo Barré sur le banc qui couvre et le 10 et le 15, ça t'offre quand même des possibilités avec...
C'est vrai que Jalibert... N'enterrez pas mon Mathieu Jalibert.
Bien évidemment qu'on n'enterre pas Mathieu, mais comme le dit Denis, il y a des fois des situations, et malheureusement, tu subis... on parlait tout à l'heure de Thomas Ramos, sans la blessure de Jaminet, Ramos en serait peut-être pas là aujourd'hui. il a bénéficié de la blessure de Jaminet pour reprendre le poste de numéro 15, ne plus jamais le quitter. Et c'est peut-être que la blessure de Jalibert, alors on lui souhaite pas évidemment à Mathieu Jalibert que cette blessure soit celle de trop, mais des fois t'as des opportunités, des joueurs qui saisissent l'opportunité qui se présente à eux.
Moi, les gars,
c'est une excellente
pas,
analyse, Julien.
N'oublions pas quand même quelque chose, c'est le temps de jeu.
C'est comme Fabien, je dis très bonne question.
Non, mais moi, juste pour terminer sur Mathieu Jalibert, je pense qu'on a on a quand même sous-estimé en attaquant ce tournoi de destination l'enchaînement de ces joueurs-là. Jalibert, il a dû prendre le relais d'Entamac, il a assumé le poste de 10 titulaire, alors qu'on sait que ça fait extrêmement un débat. Ça a été un débat très fort. Il a plutôt bien assuré pendant la Coupe du Monde. Derrière, t'as le retour en club. Et voilà, je pense que t'as des joueurs qui étaient un peu bouillis physiquement. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça aussi qu'il se fait mal. Et voilà. Est-ce qu'il faut pas attendre l'année prochaine vraiment pour avoir les mecs à 100% physiquement, 100% mentalement, pour tirer des conclusions un petit peu plus fortes?
On verra. Juste, à vous de vous donner le programme des Bleus. Comité de sélection des poteaux pour novembre, pour la tournée de novembre. Allez, en pilier gauche. Oula. Vite fait, rapidement, 15. Cyril Bailly.
Oui,
Bailly. Je vous le dis. OK, Cyril Bailly, t'as l'honneur. Julien Marchand. À droite. Winnie, continue, Winnie. Il faut voir, parce qu'il lui a posé la question la semaine dernière. Il a dit j'en sais rien. Peut-être c'est ma dernière.
Attention à l'explosion de Colombe. Après,
Winnie ou Jean-Henri, ça passe. Hein, les deux.
Denis, faudrait une transition ou tu penses qu'il faut emmener Winnie à Tonio jusqu'en Australie
Il a sous-entendu. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que lui-même, lui, il le sait pas. Hein, vraiment. Hein, il est... Je crois pas. Moi, je pense que ça va être long pour lui. Hein. Ça va être très long. Bon.
La deuxième ligne, elle bouge pas.
La même
ligne, on les connaît tous maintenant.
Il n'y a pas grand-chose qui bouge peut-être. Hein, si vous... Alors, ils reprennent leur place, les Martiens et les... Non ? Ah non, tu veux rester, tu veux laisser Ramos à l'ouverture
Non, tu es en troisième ligne déjà. Là. Moi, la troisième ligne, je ne sais pas ce que tu fais. Tu revenir Anthony Jelonge ou tu laisses François Cross
Sur ce qu'ils viennent de faire, je pense que François Cross, c'est difficile de l'enlever.
Ouais. Je suis d'accord. Je pensais qu'il était difficile de l'enlever après la Nouvelle-Zélande.
Ça veut dire qu'il revient de blessure, Jelonge. C'est à lui de regagner la place, en fait.
Évidemment.
C'est ce que je veux dire.
Évidemment.
Non, mais voilà,
donc, la place, elle est pour Cross pour le moment.
Oui, Cross, Aldrit, Olivon.
C'est excellent, ça, Denis. Hein, ce que je viens de dire. La charnière, on remet les Martiens et les.
Ah, bah oui, du point de Tamac.
D'accord, au centre. Ah! Au centre avec Gaël Ficou.
Avec moi, je vois que Danti va en venir. Là, avec Danti, méfie-moi.
J'espère que
c'est
ça
peut-être l'occasion. On n'a rien contre Jonathan Danti, hein, qui est très très précieux, très important dans le jeu de l'équipe de France et de La Rochelle. Mais c'est peut-être l'occasion de laisser un jeune qui s'est installé comme de porteur. Mais bon.
Après, si tu retrouves le vrai Danti qui avance, quand tu vois les Irlandais, l'importance qu'un Bundaki, avoir un joueur comme ça au milieu du terrain malgré tout.
Bundaki.
Avoir un joueur comme ça au milieu du terrain qui un joueur qui avance et qui percute, c'est aussi important pour donc après avoir. Mais
n'enterrez pas Danti, parce que souvenez-vous, le Danti en forme, il est
Mais c'est pour ça,
il est indispensable. Moi, je vous le dis dans la configuration. Non, mais il est
Danti frise
monstrueux.
Ozel, Penaud, Biarré, ça bouge pas. Et à l'arrière, Thomas Ramos devrait récupérer sa place. Et c'est vrai que Barret, comme tu l'as dit, sur un banc en 10 et en 15, voilà, c'est très précieux. On vous donne le programme des Bleus. Il y aura un match contre une sélection. Alors, c'est pas les Bleus, ce sera une équipe en développement qui sera alignée parce que c'est le week-end des demi-finales. Sélection,
virgule,
match contre une sélection mondiale. Non, c'était pas prévu.
Trop de virgules, tu les virgules.
Donc, match contre une sélection mondiale à Bilbao. Et ensuite, 42 joueurs partent en tournée sans les finales du top 14 et les principaux cadres qui sont laissés au repos. Deux tests les 6 et 13 juillet, plus un match contre l'Uruguay. Il y a des joueurs que vous voulez voir ou revoir, messieurs, pour terminer?
Bah Gaëtan, quand même, on a envie de le voir.
J'aimerais bien voir Gaëtan, quand même, au moins une fois. J'aimerais bien voir le petit Reuss à la mêlée Carbono Jono.
Jono, peut-être des U20, ouais. Est-ce que tu voulais revoir Arthur Vincent?
Peut-être.
Peut-être.
J'ai bien peur qu'Arthur parte de loin. Mais j'aimerais voir. Je sais pas, au centre, il y a du monde. Après, il faut voir. Je pense que Leninouchi sera en troisième ligne.
Non, mais Gazzotti sera, je pense.
Enfin, Arthur Vincent. Non, mais peut-être qu'Arthur y sera, mais ça passe aussi par une bonne fin de saison pour Arthur Vincent.
Il y a Tissopé aussi, le Palois.
Verag va revenir.
Non, mais il y a quelques Montpellierains.
C'est une info, Denis, ou c'est un sentiment?
Ouais, je pense que c'est plus qu'une info, mais bon, je pense qu'il c'est un joueur. Attention, c'est un joueur qui peut devenir.
Évidemment.
Qui peut se replacer au niveau de l'équipe de France.
C'est très intéressant.
Quelques Montpellier. Non, mais Arthur Vincent, oui, évidemment.
Tu veux pas voir. Comment tu l'appelles?
Baptiste Erdosio.
Baptiste Erdosio. C'est pas comme ça que tu l'appelles.
Tabouret
Erdosio, le pilier montpellier.
Pilier droitier.
Moi, je
droitier,
vois,
très
bon. Il fait beaucoup de mal dans les mêlées, c'est ça?
Ouais.
Je veux voir l'arrière de Pau. Exceptionnel. Tissot B.
Parce que l'arrière de Pau, c'est Maddox, il est australien. Donc on aura du mal à le prendre avec
toi. Je réfléchissais, je me disais.
Il joue aussi à l'arrière.
Oui, mais Tissot B est surtout ailier.
Tu n'as pas envie de le dire, non, ce nom?
Non.
Tissot B, c'est facile.
Tissot B.
Ah, bravo!
C'est très
fort. Très fort, il me plaît, lui.
Écoutez, on verra des nouveaux joueurs. Et ensuite, trois tests à l'automne au Stade de France. Tout au Stade de France, là. Japon le 9 novembre, Nouvelle-Zélande le 16 et Argentine le 23 novembre. On va lancer la musique de fin. D'ici là, on aura un champion d'Europe, un champion de France. C'est le nouveau feuilleton qu'on va vous garder la semaine prochaine, messieurs. Retour du top 14 et de la Champions Cup. Bientôt l'odeur des phases finales. On va remercier Kylian Vérov et Kevin Pogam qui étaient à la réalisation. Merci Julien Landry.
Merci, merci messieurs.
Nico Paul. Alors, si vous êtes encore là, parce qu'on a l'habitude de partir en courant. Donc, il est parti.
Nous, on finit les matchs. On finit les matchs, bien sûr.
Les potos qui seront là la semaine prochaine. On embrasse Christophe, c'est sûr. Comme tous les lundis avec vous, vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, les gars.
Et à nous écouter, évidemment.
On en est reconnaissant quand même, faut leur dire.
Oui.
Alors, toi qui fais ton footing, toi qui passes l'aspirateur ou qui est dans ta voiture, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gars, les gens, en écoutant le podcast?
Cuisiner.
Cuisiner.
C'est un peu difficile de jouer au rugby en écoutant Entre les poteaux. Ouais, c'est un peu dur.
Ouais, d'accord. Ouais. Parce que Vincent Moscato aussi a d'autres idées avec les gens qui écoutent les podcasts. En voiture, oui, en voiture. Eh ben, on est très content de vous avoir. Voilà, on vous le dit. Et on espère que vous vous amusez bien avec nous quand vous entendez Twilagi ou.
Ou Bundaki, parce que moi j'ai pas un coup de rate, mais bon.
Parce que Entre les poteaux, c'est la galéjade aussi, c'est ça. Bon, merci messieurs. On vous souhaite une bonne semaine à vous et on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao, bye.